Et j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et à aller avec moi dans le livre de Timothée. Nous sommes dans le dernier virage alors que nous sommes en train de terminer une série dans ces deux derniers dimanches, aujourd'hui et dimanche prochain, dans le livre de Timothée, dans cette épître pastorale. Extrêmement pratique. Pour nous, l'Église de Christ, il parle à un homme qui est un dirigeant d'Église, qui a besoin d'être coaché par un dirigeant d'Église, un apôtre d'expérience. Et Dieu merci, cet apôtre d'expérience est rempli du Saint-Esprit, donne des conseils de la part de Dieu pour Timothée. Et le Seigneur a vu bon de garder cette épître, cette lettre pour nous jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse continuer par l'Esprit-Saint à apprendre. Et c'est ce qu'on veut, apprendre de Paul, qui est dirigé par l'Esprit-Saint, à vivre l'Église. Et ce matin, bien, on est dans une dernier chapitre, mais aussi une dernière section du livre qui touche des enseignements envers différentes personnes dans l'Église. On a vu dans les dernières semaines comment s'occuper des veuves, et puis on a regardé ensuite comment s'occuper des ouvriers. Comment on prend soin d'eux? Comment on les responsabilise? Comment on doit interagir avec des situations pastorales qui sont pas évidentes des fois comme membre d'Église et qu'on doit prendre soin de ces ouvriers-là? Et Dieu a donné des consignes par l'apôtre Paul qui sont données à Timothée ici. Et il reste encore quatre groupes dans le dernier chapitre. Écoutez bien, on a les esclaves chrétiens. Qu'est-ce qu'ils doivent faire face à leur patron? On va en parler ce matin. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait face encore aux faux enseignements? Des gens qui enseignent des faussetés. On en a parlé au premier chapitre. Il en revient à la toute fin. On voit que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans l'enseignement dans Timothée. Qu'est-ce qu'on fait avec les faux enseignements? Et il a donné ici quelques enseignements dans la deuxième section qu'on regarde aujourd'hui. Envers Timothée, le pasteur lui-même, quelques consignes qu'il lui donne. Et finalement, face aux riches dans l'Église. On va en parler la semaine prochaine. Qu'est-ce que Paul donne comme consigne aux riches dans l'Église? Et je sais, vous vous dites toutes, ça c'est pas pour moi de toute façon, ça c'est pour les gens qui gagnent, on dit plus d'un 6 chiffres, d'un 7 chiffres, t'sais. C'est pour les vrais riches. Mais j'aimerais juste vous rappeler ici qu'Amérique du Nord, en général, on rentre quand même pas mal dans la catégorie des riches. Et on a un défi de riches. Et on a beaucoup de confort, et ça nous concerne aussi. Donc, on va regarder ça la semaine prochaine. Cette semaine, donc, on regarde mon attitude avec mon patron et mon attitude avec l'attrait de l'argent. C'est les deux sujets qu'on va aborder ce matin et duquel on a besoin d'apprendre à gérer. Et c'est surtout mon attitude. Et quand on parle d'attitude, c'est un petit peu plus impalpable. Hein? Tu as une mauvaise attitude. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? Ben, c'est ça que tu penses, mais j'ai pas une mauvaise attitude, là. On sent, ben tu me juges mes intentions. T'sais. Si tu veux parler d'attitude avec quelqu'un, c'est plus tough. Hein? Parce que là, on touche au motif intérieur. Hein? On touche à ce qu'on lit de l'extérieur qui communique ce qui se passe dans la tête de la personne et qu'on perçoit en tout cas. Hein? C'est pas évident, l'attitude. Et pourtant, tout au long de l'épître, on parle continuellement de notre attitude envers différentes personnes, différents groupes, envers l'Évangile, envers certaines personnes. Et ça continue ici face aux esclaves et mon attitude aussi envers ceux qui enseignent des fausses doctrines et leurs défis avec l'argent et qui ont aussi peut-être mon défi avec l'argent. Et on va en parler ce matin. Donc, c'est là qu'on est et j'aimerais commencer par vous lire ces quelques premiers versets qui touchent les esclaves. Et ça va comme ceci, chapitre 6, verset 1. « Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un respect, d'un entier respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Ceux qui sont des maîtres, ceux qui sont des maîtres croyants, donc, des patrons qui ont finalement cru en Jésus-Christ, qu'il ne leur manque pas de considération sous prétexte qu'ils sont frères. Au contraire, qu'ils les servent encore mieux, puisque ce sont des croyants et frères bien-aimés qui bénéficient de leurs bons offices. Que le Seigneur bénisse sa parole parmi nous et dans nos cœurs. Amen. Immédiatement, la première chose qu'il faut dire en lisant un texte comme ça, là, c'est que La plupart d'entre nous, nord-américains, vont dire, oh, mais on n'a pas d'esclaves. Puis là, ici, là, on est-tu pour ou contre l'esclavage? C'est pas de ça qu'on va parler ce matin, OK? Le pour ou contre l'esclavage, est-ce que Dieu est pour ou contre l'esclavage? Il a mis des règles pour gérer ça. C'est un sujet tout autre que je ne veux même pas aborder ce matin et qui n'est pas l'intention du tout de Paul. Mais pour l'appliquer à nos vies, je crois qu'il est tout à fait judicieux de parler ici pour nous de employé-employeur. Ah, là, ça peut nous parler un peu plus. Mon attitude dans ma relation employé-employeur. Et ce qui est particulier ici, contrairement à d'autres textes qui parlent de l'esclave et des maîtres, c'est contrairement à Éphésiens, Colossiens, la petite particularité ici, c'est que Paul parle pas au maître, ici. Il parle à qui? Seulement les serviteurs. Seulement. Contrairement aux autres textes qui parlent aux deux. Toi, c'est ça ta responsabilité. Toi, c'est ça ta responsabilité. Là, ici, il parle parce que là, il faut se rappeler ici que ça chambardait tout dans l'Église. Là. Imaginez, des esclaves qui valaient rien, tout à coup peuvent se retrouver. Et là, il dit, je ne suis pas en train de dire que Dieu trouve qu'ils valent rien, mais en société, ils étaient vus comme aucune valeur. Tu pouvais les maltraiter, même s'il y avait des règles, mais qui n'étaient pas respectées. Et là, tout à coup, dans l'Église du Seigneur, esclaves et maîtres qui croient en Jésus se retrouvent dans la même rangée à l'Église. Ça, en société, ça ne se faisait pas à l'époque. Et là, ça amène des grands défis sociaux dans l'Église. Parce que là, tout à coup, ton boss, c'est ton frère. La femme de ton patron, c'est ta sœur en Jésus-Christ. Là, tout à coup, comme patron, celui qui est en rangée à côté de toi, à la même place, qui est aussi un enfant de Dieu, c'est ton frère, ton esclave, en Jésus-Christ. C'est ta sœur en Jésus-Christ. Ses enfants sont tes neveux et tes nièces en Jésus-Christ. Amen! Ça changeait les affaires en bébite. Là, tout à coup, assis sur ton banc, t'es plus le patron, t'es plus l'employé. T'es frère et sœur en Jésus-Christ. Et là, ça amenait toutes sortes de défis sociaux. Et même certains, parmi les croyants, évidemment, il y avait des tentations pour certains d'amoindrir, évidemment. Là, comme patron, tu es supposé d'agir comme ça. Alors, comme employé, tu es supposé d'agir comme ça. Et il pouvait avoir facilement des revendications face à notre attitude, parce que là, tout à coup, parce que l'autre est devenu quelque chose différent, mes attentes ont changé. Je m'attends à autre chose de la part de l'autre. Tout à coup, parce que mon patron est chrétien, et ça, je l'ai entendu, hein? Des gens qui arrivent à un milieu de travail, là, il y a un nouveau patron qui arrive, un nouveau gérant, c'est un chrétien, alors les attentes viennent juste de toutes de changer. Et là, j'entends des affaires comme, « Ouais, mais tu sais, c'est un chrétien, puis tu sais, il a fait ça. » Ouais, mais tu ne chialais pas avant quand ton patron pas chrétien faisait ça. Mais là, parce que c'est un chrétien, tu as changé tes attentes, on comprend pourquoi. Et là, tout à coup, tu élèves les attentes et vice-versa. J'ai entendu des employeurs engager des gens, puis il dit, écoute, ça n'a pas d'allure, il y a un mauvais témoignage au travail, puis là, et là, l'attitude de chacun face à des attentes, parce que là, tout à coup, on ne le regarde plus l'autre de la même façon. Et c'est normal, et c'est pas normal. Vous me suivez? Il y a une tension. On est encore dans une relation employé-employeur. Mais on change nos attentes, parce que là, tout à coup, l'autre est mon frère ou ma sœur en Jésus-Christ. Et là, tout à coup, je peux baisser ma garde et le prendre pour acquis. Ou, parce que c'est mon frère, ma sœur, je veux d'autant plus mieux le servir. On va passer l'éternité ensemble. Quel est mon choix? Quel est le choix que je prends? D'élever les attentes envers l'autre ou d'élever les attentes envers moi? Et ici, Paul se concentre à encourager les serviteurs à regarder leur attitude envers leur employé, leur employeur, plutôt que vice-versa. Et je pense, pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui nous concerne comme employés pour la majorité. Mon attitude envers l'autre. Quand l'autre n'a pas toujours une bonne attitude, puis qu'il ne mérite pas que j'y réponde gentiment. Mais c'est mon boss. Est-ce que ça va au mérite que je dois y obéir ou c'est juste mon rôle? Vous me suivez? J'ai pris un travail. Indépendamment de son attitude, je suis payé pour un travail, je me dois d'être vaillant, très vaillant, à le faire comme il faut avec mon meilleur. Pourquoi? Parce que mon vrai maître, c'est pas lui. Amen. Mon vrai maître, c'est pas lui là que je sers au travail. C'est celui qui me regarde, mon Père céleste, qui me donne la santé. C'est lui mon vrai boss. C'est lui que je veux plaire dans ma manière de traiter bien mon employeur. Pas parce qu'il mérite, pas parce qu'il est toujours considérant, pas parce qu'il me donne toujours mes semaines de vacances que j'ai demandé cet été, parce que je suis pas exactement dans le top de la hiérarchie des priorités pour le choix des vacances. Puis là, je suis pas content, j'allais sur le cœur. Je sais que ça arrive pas souvent, mais au cas où. Même ce patron qui laisse passer quelqu'un d'autre parce qu'il a plus d'ancienneté, mais qui est moins compétent. Qui laisse passer l'autre qui a du favoritisme parce que c'est un membre de la famille. Puis là, mon attitude, vous me suivez? Ça arrive pas au Québec, ça arrive aux États-Unis, je comprends. Et si on fait pas ça, là, on est plus civilisé que les Américains, hein? Vous comprenez mon ironie? On est tous humains. Ça se passe partout comme ça. On est humains. Et vous savez quoi? Ça arrive aussi quand un patron est chrétien qui fait des erreurs comme ça aussi. Parce qu'il est humain. Je ne le sers pas parce qu'il est meilleur que les autres. Je le sers simplement parce que c'est mon patron, celui qu'on m'a donné. Et puisqu'il est chrétien, Paul il dit, ah non, au contraire, descends pas, puis prends-les pas pour acquis, au contraire, donne-y en plus encore, parce que c'est ton frère. C'est ça l'argument. Plutôt de dire, ben c'est mon frère, il devrait tolérer un peu plus, il devrait être plus patient envers moi. Non, non, réclame pas pour toi. Réclame pour l'autre. C'est ça l'attitude chrétienne, n'est-ce pas? Et Jésus, c'est ce qu'il fait de son vivant. Il va parler de cette question-là, de vouloir être en autorité dans le monde où on veut dominer. Hein? Puis il dit, non, non, nous autres, on est chrétiens, puis je suis venu pour servir, Jésus dit. Marc, chapitre 10, versets 42 à 45. Une déclaration bouleversante de la part du Fils de l'homme, de la part du Messie, de la part du Fils de Dieu, de la part du Créateur qui est venu parmi nous. Il m'invite à la même attitude que Jésus, celui de serviteur. Et je ne peux pas le faire si je n'ai pas Jésus en moi. Sinon, sans Jésus en moi, et déjà que Jésus en moi, je vais avoir des combats, mais sans Jésus en moi, je ne peux pas faire ça. C'est pas humain. Pas chialer contre un boss. Il n'y a pas même du plaisir à chialer contre un boss. Hein? C'est ce qu'on dirait des fois. Parce que c'est sûr que la manière qu'on en parle, des fois, on aurait tous les problèmes résolus pour les patrons. Hein? C'est comme ça qu'on parle. N'est-ce pas? Chez nous, des fois, les enfants nous écoutent, là, puis ils disent, vous avez papa, mon oncle, là, vous avez des solutions pour tout le monde, on dirait. Ah, ils viennent de soulever une attitude chez moi. N'est-ce pas, dans notre arrogance, je suis le premier là, à facilement faire ça. Quel défi! C'est pour ça que j'ai écrit, c'est mon attitude envers mon patron. Ici, il ne parle pas de changer l'autre. Le Seigneur me responsabilise, moi, mon attitude. Et vous savez, il ne faut pas se décourager, là. Le chrétien, à la différence de celui qui n'est pas chrétien, c'est qu'il voit ses failles et il continue à demander l'aide de Dieu et à se battre. Ce n'est pas que ça n'y arrive jamais de tomber, bien au contraire, sans prétention. On tombe. Mais c'est quand je le réalise, hey, c'est vrai, mon enfant dit, c'est vrai, c'est arrogant de ma part. Et le Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi. Change mon cœur. Aide-moi à voir plutôt chez mon patron ce que je peux faire pour l'aider. Ce que je peux lui donner comme information. Que je prie pour lui. Puis en priant pour lui, que tu changes mon attitude, Seigneur. Parce que souvent, vous savez, notre plus grande influence sur un patron, vous savez, c'est quoi? C'est ce mot-là. C'est mon attitude qui, le plus souvent, peut impacter mon employeur, mon attitude envers lui de respect. Mon attitude de respect envers lui et d'y en donner pour son argent. De faire les jobs pas à moitié. D'être prête quand je peux, dans la mesure que c'est raisonnable. De faire des remplacements pour faciliter. Pour voir que je suis prête à être dépannée quand je peux. Puis que c'est raisonnable, que je ne brise pas des engagements. Je suis prête à dépanner puis aider. Que je ne suis pas en train de faire le minimum puis que dans tous mes employés, ce soit le chrétien qui soit celui qui est le moins dévoué au travail, à considérer les autres, à y donner son meilleur. Et c'est ce qui nous invite. Mais évidemment, Ça se passe seulement si le Seigneur le fait en moi. Et donc, il souligne ce défi d'attitude. Et je pense que ça résume bien le défi qu'il essaie de souligner ici. Et si on l'applique à nous, notre relation employé-employeur, il y a ici une exhortation précieuse qui, jumelée avec Colossiens, nous rappelle qu'on le fait sous le regard du vrai maître. Mon vrai patron, c'est mon créateur. Et c'est lui que je veux plaire par la manière dont je traite l'autre et que je traite les autres employés. Et que je veux être pour mon patron un employé modèle qui ne peut pas et qui ne veut pas se passer. Parce que l'employé chrétien, il se démarque. Pas négativement. Positivement, par la grâce de Dieu. Et donne le goût de l'Évangile. Que le Seigneur nous permet d'être des employés tels par la grâce de Dieu qui honore Dieu. Et il dit ici, la motivation, c'est que ce ne soit pas une situation de blasphème. Quelque chose qui amène à maudire Dieu. Que c'est triste lorsqu'on entend quelqu'un qui parle de ses employés et que parfois c'est complètement par mépris de la foi de la personne, mais qui parle de l'employé chrétien qui est moins bon que les autres, qui en donne moins que les autres. Quelle tristesse! Et que là, tout à coup, la foi chrétienne est méprisée par celui qui regarde plutôt que de bénir par celui qui regarde. Et la motivation est ça, afin qu'il ne blasphème pas, qu'il n'y ait pas un sujet de maudire Dieu, de mépriser Dieu, parce que la personne est en train de mettre en pratique les enseignements de l'Évangile. Et que ce soit la même ferveur qui suit celui qui a un patron chrétien, et non d'en diminuer. J'ai été édifié cette semaine, pas cette semaine, mais dernièrement, je parlais avec une sœur, et la sœur m'exprimait des changements de travail, etc. Et dans son travail, où ce qu'elle était, ça avait été difficile dans la dernière année. Et il y avait une employée, c'était pas un employeur, mais l'employeur n'exerçait pas du leadership face à ce qui se passait avec cet employé-là. Elle était maltraitée. Maltraitée pas physiquement, c'était surtout par une attitude et qui semble être du racisme qu'elle subissait. Mais moi, ce qui me préoccupait, c'est de voir l'attitude de celle qui me le racontait. Elle avait une belle attitude chrétienne là-dedans. Elle n'a pas tout de suite été clamée et tout de suite été portée une plainte en présumant tout. Elle a fait part, gracieusement, après un certain temps, elle a essayé de faire tout pour gagner la confiance de la personne, mais il n'y avait rien à faire. Puis elle a prié là-dessus, elle a prié là-dessus. Et le Seigneur a parachuté cette femme-là dans un autre département. Et elle a pu retrouver la paix dans son département, sans qu'elle n'en perde son témoignage. Est-ce que la personne a changé? Non. Est-ce que la personne a perdu son témoignage, a chialé, a clamé au raciste, puis peut-être c'était vrai, peut-être c'était pas vrai, on ne sait pas. Sur les attitudes, hein, parce que quand on parle d'attitude, puis qu'on attaque quelqu'un des attitudes, et que c'est difficile, parce qu'il faut plus que ça pour un employeur. Hein, il faut des manquements, il faut... Et là, ça, c'est difficile. Elle a prié. Parce que son vrai patron, c'était pas le patron qui était un peu complaisant, qui osait pas. Son vrai patron, c'est qui? C'est Dieu. Et donc, elle a quémandé au vrai du vrai patron. Et le patron s'est occupé de permettre qu'une application dans un autre département ait permis un changement d'endroit. Parce que l'autre ne changeait pas d'attitude. Elle n'était pas chrétienne. Ne voulait pas changer. Le Seigneur a permis. Et moi, j'ai aimé l'attitude de cette dame. Dieu a répondu à sa prière. Et elle a gardé son témoignage. Et le Seigneur lui a permis une délivrance. Amen. Lisons les prochains versets. Et là, ici, on a l'impression de retourner au chapitre 1, dans les versets 3, 4, 5, 6, 7, où ce qui parlait des faux docteurs. Et là, il dit, tout ce que tu viens de lire ici, qu'on vient d'enseigner, voilà ce qui se doit être enseigné et recommandé. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, et ici, vous connaissez le mot « autre », parce qu'on l'utilise régulièrement, une doctrine « autre », une doctrine « hétéro ». Hein, vous connaissez le mot « hétéro », hein? Autre, hétérosexuel, autre sexe, hein? Intéressé à l'autre sexe, hétéro tout simplement, un autre, un évangile ou un enseignement hétéro, autre. S'il ne s'attache pas aux saines doctrines, de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine conforme à la piété. Et si vous êtes de ceux ici qui soulignez, qui utilisez un surligneur, éducation anglophone, désolé, là, il y a des mots des fois que je cherche comme ça. Là, ici, il y a quelque chose de vraiment important à souligner. Regardez au verset 3, et je pense que ça va être central à tout ce qu'on va dire ce matin, OK? Si quelqu'un enseigne autre doctrine, s'il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Soulignez ça. Saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème. La personne s'éloigne de l'enseignement et des saines paroles de Jésus-Christ. Et tout ce qu'on va regarder dans le texte ce matin tourne autour de la solution que c'est les saines paroles de Jésus-Christ qui ont été mises de côté. Et toute déviance qui se passe ici dans le texte, c'est qu'on a tassé les saines paroles de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire amen? Aussitôt qu'on tasse les saines paroles de Jésus-Christ, c'est là qu'on dévie. On parle pas ici des saines paroles de la religion, les saines paroles des dites églises, les saines paroles du pasteur, les saines paroles d'un bon livre chrétien. On parle des saines paroles de Jésus-Christ. C'est les paroles de Jésus-Christ qui sont au centre de nous garder dans le bon chemin. C'est les paroles saines de Jésus-Christ qui nous ont amené le salut en Jésus-Christ, qui nous a amené de bien comprendre le sens de l'Ancien Testament et maintenant de l'accomplissement de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est ces saines paroles que les apôtres ont enseignées et mises en pratique dans l'Église et qui englobent tout ce qu'on a ici. Ce sont les saines paroles de Jésus-Christ qui font toute la différence pour marcher droit ou prendre le fossé. Vous me suivez? Et ici, c'est le problème du faux docteur, du faux enseignement. Il s'est éloigné de ça. Et c'est de ça qu'il ne faut pas s'éloigner. J'ai aimé beaucoup les paroles, je vous en ai parlé il y a peut-être un an et demi de ça, j'ai été à une conférence à Toronto, et c'était Sam Albury qui parlait. Et Sam Albury est connu par le fait qu'il est un homme qui a des luttes avec le même sexe. Il est célibataire, il est pasteur anglican en Angleterre, a beaucoup de rayonnement par le fait qu'il adresse ces sujets délicats. Et étant lui-même dans cette lutte-là, il en parle ouvertement. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est pas autant son enseignement que deux choses. Quand il parlait, cet homme-là, c'était la première fois que j'écoutais quelqu'un, que je sentais que quand il parlait, j'avais l'impression d'entendre vraiment quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Son attitude, quand il prêchait, il y avait quelque chose de calme, de percutant dans la tranquillité de sa voix. Ce n'était pas un grand flamboyant comme communicateur, mais doux et humble de cœur dans sa communication. Ça m'a marqué. C'est la première fois que j'écoutais quelqu'un qui me disait, Jésus devait parler comme lui. C'est ça qui m'a marqué, la première chose. La deuxième chose, c'est devant les dilemmes qu'ils pouvaient rencontrer, où ce que des fois, il y a des situations pastorales qui sont embêtantes, où que les gens sont frustrés contre toi, ils disaient, où ce que là, je dois leur dire, qu'est-ce que Jésus pense là-dessus, puis il sait que ça va les choquer, puis qu'ils ne seront pas contents. Il dit, ce que je m'assure de faire, et je les amène dans les évangiles à des paroles de Jésus. Quand j'ai entendu ça, je dis, ah, que c'est bon. Ça, c'est évangélique. Pour être certain que s'ils sont frustrés, qu'ils comprennent bien que moi, ce que je crois, ça vient des paroles de Jésus. C'est Jésus qui a enseigné ça. C'est Jésus qui a incarné cette attitude divine-là. C'est Jésus qui a donné ces consignes-là. C'est Jésus qui a tranché sur ces standards moraux-là, pas moi. Puis ce Jésus-là, il est mort à la croix pour toi puis moi. C'est pour ça que je le suis. Amen. Et ça m'a marqué. C'est ce que je retiens le plus après avoir écouté Sam. Ramener les paroles de Jésus. Et quand j'ai lu ça cette semaine, j'étais comme, ben c'est le cœur de tout ce qu'on va lire ici. C'est quand je m'égare des paroles de Jésus que ces déviances-là, que je ne vois pas finalement la subtilité de faux enseignements. Et il y en a plein de faux enseignements autour de nous qui viennent continuellement. Il faut faire attention à ce qu'on va écouter sur YouTube. Faites attention à qui vous écoutez. Demandez conseil si vous n'êtes pas certain. Vous savez, comme pasteur, on est régulièrement confronté à des gens qui écoutent un petit peu trop de YouTube. Puis j'aimerais te dire ce matin, passe plus de temps dans ta Bible avec Jésus que sur YouTube. Et peut-être ta doctrine va être plus juste et moins subjective à l'époque. Notre doctrine ne vient pas de YouTube. Comprenez-moi bien, YouTube a des bonnes utilités, des bons enseignements. Mais on doit user discernement. Et la plus grande assurance qui existe pour éviter de tomber dans des mauvais enseignements, c'est d'être collé sur les enseignements sains, hygiéniques. Littéralement, c'est de là que vient l'aspect d'être sain, là, c'est de là que vient l'idée du mot français, hygiénique. C'est sain. Une doctrine, des paroles hygiéniques qui sont bonnes pour ma santé spirituelle, qui sont bonnes pour ma santé globale, émotionnelle, qui sont bonnes pour guérir mes plaies intérieures que personne ne voit, mais que je lutte avec chaque jour dans mes émotions et qui pèsent dans mes décisions quotidiennes. C'est les paroles hygiéniques, les paroles saines de Jésus. Et donc, je souligne ça ici avant d'aller plus loin, parce que pour moi, on va y revenir aussi, c'est vraiment une partie centrale de tout ce qu'on va être en train de lire dans ces versets-là. C'est bon? Toutes les surligneurs ont été utilisées? C'est bien noté? Moi, je suis comme ça. Ma Bible est toute barbouillée. C'est pas un manque de respect, vous savez, hein, de barbouiller. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on veut souligner, qu'on veut remarquer, on travaille fort dedans. Puis dans ce temps-là, pour ça, tu rachètes une Bible ou quelques années, puis tu recommences. Il n'y a rien de mal à ça, là. OK? Je sais qu'il y en a qui aiment ça, le garder tout immaculé. C'est correct. Respect. Respect. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je barbouille dans mes livres. C'est mon bureau de travail. Alors, je le relis. Si quelqu'un enseigne autre doctrine, s'il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est conforme à la piété. Donc, conforme pas à la religion, à la piété, c'est-à-dire à manifester la crainte de Dieu, ce qui plaît à Dieu. OK? C'est qu'il se trouve, premièrement, aveuglé par l'orgueil. Effectivement. Il y a beaucoup souvent l'orgueil qui est à la base de choses qu'on entend qui viennent nous chercher. Deuxièmement, c'est un ignorant, un malade. OK? C'est, Paul, il ne marche pas ses mots. Il fait ici une sorte de diagnostic médical de la condition de la personne qui s'est éloignée des seules paroles de Jésus. C'est que si tu as mis de côté des paroles hygiéniques, tu prends d'autres paroles, ben qu'est-ce qui va arriver? Ça ne sera pas hygiénique. Ça va porter de la maladie. On dirait qu'il fait une sorte de petit diagnostic médical sur la condition de cette personne-là, sur son cœur. Et finalement, il est dans l'ignorance. Et c'est un peu ce que Paul disait. Il se pense compétent. Il pense avoir de la connaissance de l'Ancien Testament, mais il ne comprenne pas. C'est ce qu'il disait au chapitre 1, versets 5, 6, 7. Il se pense, mais ils ne comprennent même pas. C'est une fausse prétention. C'est de l'orgueil. Ils sont ignorants et un malade en quête de controverses et de querelles de mots. De là viennent. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Le résultat? Envie, dispute, blasphème, malveillance, soupçon, altercation. Et ce que je remarque ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que la mauvaise santé spirituelle de cette personne-là qui s'est éloignée des paroles de Jésus, qui enseigne d'autres choses, toutes sortes d'influences, qui viennent à quelque part combler dans son ignorance, qui prétend quelque chose, de savoir des choses, mais il ne sait pas. Son orgueil, ça vient le chercher, puis il se pense bon de promouvoir telle ou telle chose. Et en plus, à l'intérieur, il y a de la maladie, dans le fond, parce que la parole hygiénique, la parole saine de Jésus n'est en train de faire son œuvre dans son cœur. Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est pas hygiénique. Il y a de la maladie. Ben, cette condition intérieure, ce diagnostic de santé spirituelle que Paul est en train de faire sur cette personne-là, ben, elle a un impact sur les relations. Et qu'est-ce qui arrive dans les relations? Ben, évidemment, des altercations, des obstinations, des disputes, des blasphèmes, de la malveillance. On soupçonne des choses chez l'autre. Automatiquement. Si j'ai pas la saine doctrine en dedans de moi, ça va amener des rapports négatifs avec les autres. Vous me suivez? Problèmes de santé spirituelle, individuelle, mais ça a comme résultat des problèmes de santé relationnels avec les autres. C'est indissociable, c'est une question de temps. Quand tu te nourris mal, ça va affecter les autres. Et des fois, je remarque aussi que dans ces fausses doctrines, ben là, on vient tellement à regarder des YouTube sur ça, que là, on parle juste de ça avec les gens. Et ça envahit les conversations. Et là, on se dit, « Ouais, mais toi, t'es source. » Je sais que vous n'avez pas entendu ça dans les dernières années. Mais moi, je me suis fait dire quelquefois, ça passe carré dans mon orgueil, effectivement. C'est très humain. Toi, tu as des meilleures sources. OK, toi, tu n'as pas fait tes devoirs. C'est pour ça que tu penses demain. Moi, j'ai fait mes devoirs, puis tu penses tout croche. Hein? Et ça vient nous chercher, hein? Hein? Je sais, je suis peut-être le seul qui vit ça, là, mais ça me fait du bien d'en parler, OK? Pour peut-être les rares qui n'osent pas le dire. Ça vient chercher notre orgueil. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une prétention que j'ai fait des meilleurs devoirs que toi, j'ai une meilleure source, j'ai fait des meilleures lectures, j'ai un meilleur discernement que toi. Puis l'autre qui pense pas comme ça, je me rappelle un pasteur qui m'a envoyé pendant au milieu de la pandémie là, une vidéo, là. Puis ça disait comment que les pasteurs qui ouvraient leur assemblée, ben finalement, c'était des compromisseurs qui étaient en train d'être complices avec le gouvernement. J'ai dit, t'es-tu sérieux? Tu veux que je lise ça? Puis que c'est moi que tu cibles, tu comprends-tu, là? Oui, effectivement. Malaise. Je ne l'ai pas écrit, mais c'était sous-entendu. Malaise. Et c'est commun. Et là, des fois, dans ces obstinations-là, qu'est-ce qu'on fait? Il parle ici, on joue d'un mot. Hein? On joue d'une définition, on joue d'un mot. On gosse sur des détails en bon québécois. Hein? Désolé pour ce très québécoisiche, là, mais hein, nous, on gosse sur des détails, les Québécois. C'est ça qu'on fait, hein? Et ça amène, qu'est-ce que ça amène? Des tensions relationnelles. Puis la question à la fin de la journée, c'est-tu vraiment une valeur évangélique sur laquelle je veux me battre, cette affaire-là? C'est-tu vraiment quelque chose qui est important à la foi évangélique ou c'est juste une question d'opinion, secondaire, ou même plus loin que secondaire même? Puis que moi, je suis en train de me grandir d'orgueil, d'être connaissant là-dedans, d'être là. Puis là, je ne réalise pas que mon attitude, en tout cas, même si j'aurais raison sur le sujet, mon attitude dévie de l'Évangile. Ce n'est pas hygiénique dans mes relations avec les gens. Vous me suivez? Et c'est ça qu'il dit. Ces gens-là, ils disent, il faut interagir avec le problème. Et c'est pour ça qu'ils évitent de les tasser, de les adresser, et de ne pas être trop doux, parce que là, ça affecte les gens autour. Et eux autres ont évidemment, favorisent les tensions dans l'Église de Christ. On n'a pas besoin de ça. On a assez de notre chair, là. Pas besoin de ça. Se battre sur des idées secondaires. Respectons-nous les uns les autres. Et si quelqu'un insiste, dites-lui gentiment, écoute, mon frère, je sais que c'est quelque chose qui te passionne, ma soeur, je sais que tu tripes là-dessus, là, tu sais, mais t'en parles tellement que ça devient un irritant dans notre relation. Puis, pour moi, ça n'a pas la même importance. Je comprends que c'est important pour toi, mais pour moi, ça n'a pas la même importance. Puis, tu m'en parles tellement que, finalement, c'est comme tu veux me changer pour que je fasse comme toi, que j'aie la même passion. Puis moi, je ne me sens pas respecté là-dedans. J'aime pas ça. Ça m'amène même, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des gens qui s'éloignent de toi à cause de ça. Oui, ça demande du courage d'être honnête comme ça, de dire avec vraiment un cœur sincère d'amour pour l'autre. Il faut avoir une relation, effectivement. Mais il faut le faire. Ça nous rend service les uns aux autres. Puis à un moment donné, de le dire, ce que ça t'apporte, il me semble, ça dévie de l'Évangile. Il me semble que ça dévie des saines paroles de Jésus. Jésus ne parlait pas de sujets triviaux, secondaires, continuellement. Quel défi! Et je continue juste pour compléter. Et au verset 5, il complète cette idée avec ce que ça amène, les soupçons. Hein, on prétend, on sous-entend des choses dans leurs pensées, évidemment. Cette altercation sans fin entre gens à l'esprit qui sont finalement corrompus par cet enseignement mauvais. Et regardez bien, privés de la vérité qui présente de la piété est une source de profit. Je vais juste vous lire en français courant. Ici le verset 5. Et des discussions sans fin entre gens de l'esprit faussé ayant perdu toute notion de la vérité. J'aime cette idée-là. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Et là, on transite vers un problème que tout ça amène, l'argent, et qui va discuter jusqu'à la fin de notre section, verset 10, qu'on va regarder ce matin, la question d'argent. En évacuant et en se distançant, ils évacuent aussi la vérité. La vérité est dans deux sens. L'idée que ce tableau dit la vérité. Il donne une information. La vérité, c'est que le mot ici, c'est le mot partagé. C'est un fait, hein? Mais il y a vérité morale, il y a vérité plus globale. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Il est source de vérité. Mais il ne prétend pas aussi que l'important, c'est que nous, on ait la vérité sur chaque dossier. C'est pas ça qui nous sauve, c'est Jésus, la vérité. Vous suivez la différence, la nuance? Et ici, des fois, les gens vont dire, « Ouais, mais tu as besoin de la vérité. » Mais c'est pas la vérité qu'on te raconte. Oui, mais le plus important, c'est que j'ai la vérité en Jésus. Ses paroles sont vérité. Lui, il est vérité. Et il me donne le discernement sur ce que j'ai besoin de discerner en termes de vérité ou pas autour de moi. Morale et intellectuelle aussi. Et eux se sont égarés de tous deux. Et ils ont tombé dans quelque chose qui les amène finalement à vouloir du profit, un gain, dans la religion, dans les croyances. Et c'est là qu'ils transitent pour l'amener, où je vais lire les quatre prochains versets. Qui, elle, oui, elle est une grand, un grand profit, la piété. C'est vrai, la piété est d'un grand profit, mais pas comme vous le pensez. Pour ceux qui est du compte, pour qui se contente de ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et de même, nous n'en pouvons rien emporter. Si donc, nous avons, vous avez remarqué ici le jeu, là, apporter, emporter, en grec, ils font la même chose, il y a un jeu de mots et ça a été vraiment bien traduit ici pour l'idée de apporter, emporter. Si donc, nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contentons. Verset 8, 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, dans les multiples désirs insensés, fous et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'argent, l'amour de l'argent. Pas l'argent, l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercer l'âme de tourments multiples. Wow! Donc, les thèmes ce matin qu'on touche, c'est la question des esclaves chrétiens. Et on a vu le défi d'attitude de devoir envers un maître non-croyant et envers maintenant un maître croyant. Et le défi qu'on a relevé d'attitude à ce niveau-là. Maintenant, l'attitude envers ceux qui sont des faux docteurs. Comment les aborder, comment analyser. Et là, dans le fond, notre attitude ici est liée à l'analyse. Que fait l'analyse médicale, le bilan qu'il fait de leur santé spirituelle dans les versets 3 à 5 qui touchent les caractéristiques de ces faux enseignements. Et qu'est-ce qui est leur problème, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui a un impact sur la communauté chrétienne. Et là, finalement, il leur dit leur motivation, au bout du compte, parce qu'ils se sont égarés des paroles de Jésus, ils se sont égarés de la saine doctrine, il vient une motivation de gain. Effectivement, la piété, la caritas apporte un gain, mais pas un gain argent, mais un vrai gain. Le vrai gain, c'est pas argent, l'argent va mourir. Donc, un gain doit être beaucoup plus que l'argent. L'argent va disparaître. Elle est volatile, elle est fragile, et tu l'emportes pas avec la mort. Donc, il y a vraiment un gain, mais pas un gain financier. C'est un gain spirituel, émotionnel, permanent, de la vie éternelle. C'est relationnel, c'est la satisfaction, et surtout avec le contentement, il met. Et là, ce piège qui vient, ces gens-là, dans les fausses doctrines, alimenter le problème de l'argent qui vient se mélanger à tout cela. Il ramasse finalement à commercialiser l'argent. Et c'est pas pour rien aussi qu'il a adressé dans le chapitre 3, dans Tite aussi, face aux qualifications des diacres et des anciens. Vous avez remarqué une valeur qui revient continuellement des leaders d'église. Et je vous dirais ceci, c'est pas juste là. Dans l'Ancien Testament, les leaders de l'Ancien Testament, c'était les mêmes critères à l'époque de Moïse. Son père, il fait une recommandation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Exode, chapitre 18. Il est en train de faire la job. Le beau-père le regarde à Moïse. Puis après ça, il parle. Il dit, écoute, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Ça n'a pas d'allure ce que tu fais. C'est bien trop de travail pour un seul homme. Tu vas épuiser puis tu vas mal servir ton peuple. Parce que tu veux pas. Ce n'est pas une tâche pour un homme. Choisis des hommes. Nomme-les comme anciens. Puis là, il donne quatre critères. Et un des critères, c'est quoi? C'est quoi? Leur relation avec l'argent. Il dit, ils sont pas achetables, ces gens-là. Il faut que ça soit des juges, des gens qui vont se prononcer, qui sont pas liés à des problèmes avec les finances, qu'on peut pas les acheter, les amadouer par l'argent. C'est un gros problème, n'est-ce pas? Dans le monde entier, on parle des gens qui se font acheter. Mais il faut qu'un leader d'une congrégation soit pas achetable par l'argent. C'est pas l'argent qui l'a amené là. Et quand il regarde et prend soin des gens, c'est pas en fonction de leur statut économique. Et c'est pas pour rien qu'ils touchent aux leaders à ce niveau-là. Et ces gens-là qui se sont égarés, mais leur relation avec l'argent change. Et tout à coup, ils regardent les profits. Commercialiser même la religion. Et je vous dirais qu'on voit beaucoup ça, malheureusement, dans les enseignements de l'Évangile, de la prospérité, qui ne présente plus l'Évangile à un certain moment donné, mais qu'un Évangile autre. On égare, on commercialise, on parle continuellement d'argent, alors que l'argent, c'est qu'un outil. Pourquoi en parler tout le temps? C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Vous suivez? Et c'est ce qu'il adresse ici, ce défi qu'ils ont. Et donc, en regardant ça, j'aimerais souligner quatre principes ici qui sont bons pour nous à retenir. Quatre principes à retenir face à ce défi de mon attitude avec l'argent. Évidemment, ici, il parle des faux docteurs qui tombent là-dedans. Okay? On va parler des riches la semaine prochaine. Il va y avoir d'autres conseils qui viennent. Mais dans ce dernier chapitre, il y a deux parties qui parlent d'argent. Un, face aux faux docteurs et les fausses conceptions qui les amènent là. Et l'autre, c'est pour faire attention les riches. Deux attitudes différentes qui sont adressées, mais le même défi quand même quant à l'argent. Et j'aimerais nous dire et nous proposer qu'on a tous un grand défi avec l'argent. OK? Je vais me confesser en partant. J'ai de la misère avec l'argent. Il y a un an, je suis rentré au Costco. C'est l'épicerie des hommes, ça, hein? En tout cas, dans mon livre à moi, c'est l'épicerie des hommes. Je fais l'épicerie là tous les lundis, religieusement, pratiquement. Et j'ai acheté quelque chose que je n'avais pas de besoin. Toutes les fois que je rentre dans mon bureau, il est là, à gauche. Je ne peux pas le manquer, je m'en fâche tout le temps dedans. Un espèce de cossin qui est en spécial, que je me disais que ça avait de l'air intelligent d'acheter. Une belle petite affaire carrée. Batterie rechargeable, tu peux booster, charger des affaires, tu le rentres dans l'affaire. Puis il manque d'électricité souvent chez nous en campagne. Ça, c'est intelligent d'acheter ça. Mais je n'avais pas l'intention de l'acheter. Je n'avais pas vraiment besoin ou planifié de l'acheter. Mais là, il était en spécial. Au lieu de 160, il était à 120. Tout qu'un deal. Et j'avais le 120$. Plus taxe. Alors, en bon Québécois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté mon cossin. Et je ne l'ai pas utilisé depuis un an. En fait, un an et demi, c'est pire encore. Et il est là à gauche, à toutes les fois que je rentre dans mon bureau. Il a de l'air beau, ça a de l'air solide, ça a de l'air impeccable. Il n'est pas usé, il est neuf. Je suis un Nord-Américain. Et j'ai dépensé pour quelque chose de complètement inutile, que je n'avais pas réellement de besoin. Ah, oh, je pouvais trouver une utilité, là. Ça va être intelligent, il va y avoir plusieurs besoins à combler avec ça quand je l'ai acheté initialement. Il y avait un monsieur à côté de moi, il dit, ah, oh, c'est une bonne affaire, deal, entre hommes, on s'est craqué, c'est une bonne affaire. Ça fait un an et demi que c'est là, traîné. Il y a des mains qui veulent se lever ici? Combien de choses que... Parce qu'on est dans l'abondance, on dépense inutilement. Au lieu d'être généreux dans quelque chose qui serait utile pour quelqu'un. Puis écoutez, c'est une affaire au Dollarama que vous pouvez acheter aussi là, inutilement. Là. Hein? Ça n'a pas besoin d'être au Costco en spécial à 120$ plus taxes. Là. OK? On est dans l'abondance. On a plus d'argent en réalité qu'on a besoin pour notre vie de base. Et le danger, c'est que tout autour de nous nous sollicite à nous donner des besoins, à nous communiquer des besoins. Tu écoutes la radio, tu te fais communiquer comment que Catherine Gaudreau veut te vendre, est encouragée à prendre un beau 4x4 à tel endroit. Hein? On l'entend tout le temps, on le sait. Elle a un 4x4 elle aussi. Hein? Mais bon, mais tu ne peux pas écouter aucune radio, aucune TV, aucun rien. Tu passes sur le bord de la route, on placarde les bords d'autoroute, n'est-ce pas? Continuellement à solliciter toutes sortes de choses pour nous, Nord-Américains, puis qui vont nous payer toutes sortes de choses. Et vous savez, les choses sont pas mal en tant que telles. Mais c'est pourquoi j'en ai de besoin, pourquoi je me donne et je m'embarque là-dedans, puis que à prochaine paye, j'ai déjà une idée sur quoi je vais dépenser. Hein? La prochaine augmentation, c'est pour acheter quelque chose, puis que je vis pour le prochain voyage que je vais me payer, pour la prochaine vacance. Pourquoi c'est si dur, ça? Ce contentement de ce que j'ai, tout simplement. D'être juste reconnaissant à Dieu. Ce matin, LP a pas fait. C'était intentionnel. Là. Il y avait plein de choses sur le remerciement, la reconnaissance, nos prières portées à la reconnaissance. C'est pas pour rien. Parce que la reconnaissance guérit notre cœur de la convoitise beaucoup. La reconnaissance envers Dieu nous amène à ne pas regarder ce que j'ai de besoin, mais regarder comment j'ai reçu tellement que je suis dans la reconnaissance. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Je peux utiliser d'autres choses. Je peux en profiter sainement par la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu de pouvoir utiliser sainement des choses qu'on a. Mais quel défi! Donc, je vous souligne quatre vérités ici qu'on voit, que Paul enseigne brièvement. La richesse n'apporte pas le contentement, premièrement. OK? Elle n'apporte pas le contentement. Oui, mais si j'avais juste un petit peu plus, une prochaine promotion, juste un autre voyage, juste un, là, je serais satisfait. T'sais. Moi, je collectionne la monnaie, OK? Il y a des confessions. Hein? Depuis que j'ai 12 ans, je collectionne la monnaie. Pas pour me rendre riche, j'aime collectionner la monnaie. Puis vous savez le problème des collectionneurs? Leur problème principal, c'est qu'ils collectionnent. Vous savez ça, vous savez ça? Les collectionneurs, notre problème principal, moi j'ai cette fibre naturelle-là de collectionneur, on collectionne. Il n'y a pas de finalité à collectionner. C'est un trou sans fond, des méandres. Inlassable, insatisfaisable, à toujours contempler la prochaine chose à ajouter à ma collection. Et j'en prends connaissance, on dirait, à mesure que je vieillis. Pas que c'est mal de collectionner. Si je collectionne, j'ai du plaisir de temps en temps ajouter des pièces de monnaie. Puis j'ai du plaisir à ramasser des petites pièces des gens qui voyagent d'un pays à l'autre. Puis c'est du plaisir que j'ai de connaître leur politique. Oui, mais c'est un trou sans fond. Et vous savez, on est collectionneur en nord-américain parce que de l'abondance nous permet d'être collectionneur de toutes sortes de choses. Que ce soit des bébelles, des quatre roues, des outils, que ce soit des kits de ci ou de ça. Regardez vos armoires. Vous allez réaliser, vous collectionnez des choses que vous ne réalisez pas que vous collectionnez. Il y en a qui collectionnent du linge. J'ajoutais rien là-dessus. Moi, je vis avec 6-7 femmes. Là. Je dirais rien sur le linge. Je vais avoir des problèmes. J'ai-tu parlé du linge, moi, là? Non, je n'ai pas parlé de ça. OK. Fait que, on va changer de sujet. Il y a un malaise ici, là. Hein? On collectionne. Prenez le temps, regardez vos armoires. On collectionne. Vous vous rendez même pas compte. Mais la richesse permet qu'on ramasse des choses. Et on n'arrive pas à se débarrasser. Pourquoi? L'accumulation, c'est tout un défi. Et ces bebelles-là, ces choses-là, n'apportent pas le contentement. Le contentement, ici, avec le contentement. Donc, le contentement est indépendant. Tu peux être dans la satisfaction avec ou sans argent. L'argent n'est pas le facteur de contentement. Vous me suivez? Et c'est ce qu'il est en train de souligner ici. Un auteur que je lisais cette semaine soulignait comment il voyait un mâle qui venait juste de choisir un beau gros ver sur son gazon. Un beau gros ver. Et là, il est allé s'installer à peu près à 9-10 pieds de sa fenêtre sur un fil électrique. Là, il est en train de le déguster et de le manger. Et pendant une demi-heure après ça, il a commencé à chanter, pendant 30 minutes de temps. Et il fait le commentaire suivant, il dit, « Le mâle ne s'est pas plaint de la couleur ou de la grosseur du ver, mais il était satisfait de ce qu'il avait trouvé et mangé. Il était content, il était ravi et il chantait au Père Céleste qui avait créé tous deux. » Une fillette un jour, dont le père était un grognon chronique, dit à sa maman, « Je sais ce que tout le monde dans cette famille aime. Mon frère Jean, il aime le spaghetti. Jeanne, elle aime la crème glacée. William aime les bananes. Et maman aime le poulet. » Bravo! Le père, contrarié parce qu'il ne faisait pas partie de la liste, demande, « Mais moi, qu'est-ce que j'aime? » Et tu ne demandes pas ce genre de questions-là à une petite fille innocente. Hein? Innocemment, la petite fille répondit, « Tu aimes tout ce que tu n'as pas, papa. » Paul pouvait dire, « J'ai appris à être content, être contenté dans l'état où je me trouve. Ce que j'ai, je suis reconnaissant de ce que j'ai. » Philippiens 4, 11. Hébreux 13, 5, il dit, « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et ça, c'est suffisant pour être en paix et content. » Deuxièmement, La richesse ne dure pas. Remarquez le jeu de mots en français qui reflète le jeu de mots en grec. Hein? Apporter, emporter. Tu n'as rien apporté, ben tu ne vas pas rien emporter. Et les Grecs faisaient la même chose. Isphero, ekphero. Et donc, étant à dire exactement ce que notre ami Job, le modèle de la souffrance, a dit dans l'Ancien Testament. Et je vous le cite. Je suis sorti du sein de ma mère, nu. Je n'avais rien. Même pas de linge. Ça devait être un garçon, c'est pour ça. Ah, excusez. C'est une interprétation libérale, là. Je ne sais pas. Excusez-moi, j'ai égaré, là. Je me suis égaré. Je vais recommencer, là, lire la Bible, là. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ah, on le sait tous, Joël. C'est pas le premier pasteur qui le dit, je le sais. Mais il faut le répéter. C'est pas ce qu'on sait qui est le problème, c'est que ce qu'on l'oublie, qu'on a de la misère à vivre avec. T'apportes rien, t'emportes rien. Donc, il n'y a rien qui devrait être déterminant sur ton contentement, si ce n'est que celui qui a donné la vie et qui va la reprendre. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Évidemment, nous, on est comme la vache folle, d'un voisin qui parlait de sa vache, qui allait tout le temps d'un territoire à l'autre. Une vache super productive, mais sa vache avait la mauvaise manie de toujours se ramasser entre les cordages et de pogner parce qu'elle cherchait tout le temps à aller chez le voisin, qui lui avait dû, évidemment, la belle herbe verte. Mais parce qu'elle était continuellement en train de regarder l'herbe verte du voisin, elle avait le dos tourné à l'herbe verte dans la cour. Vous me suivez? Et qu'est-ce qui arrivait? Ben, elle était tout le temps pognée dans les barbelés entre les deux terrains. Pognée, pris. Et l'auteur dit ceci, « Bien des gens ressemblent à cette vieille vache. » Bon, c'est pas marketing comme punch de pasteur. Hein? J'avais pas vu de cette façon-là. Je vous traite pas de vieille vache, OK? Soyez rassurés. Mais bien souvent, on se comporte comme cette vieille vache. À jalouser chez le voisin. À regarder. Et à force de regarder l'autre bord, on a le dos tourné à tout ce que Dieu nous a donné. N'est-ce pas? Le Seigneur nous invite pour nous guérir à ça par les psaumes, à la louange. La louange change notre attitude. Ce matin, là, quand on a chanté, là, est-ce que vous voyez que votre attitude est différente quand vous partez de l'église après avoir chanté des louanges? Puis que là, tout à coup, tu comptes les bienfaits de Dieu, tu remercies Dieu, tu entends les prières des autres. Ça fait du bien. Entendre les prières des autres, comment ils expriment leur reconnaissance, les détails qu'ils soulignent, fait du bien à mon âme. Me détourne de moi et me tourne vers l'autre. Nos besoins essentiels sont facilement satisfaits dans ce qu'on a reçu, tout simplement. Quand on regarde la liste de ce que le Seigneur nous a accordé, il y a tellement qu'il nous accorde. Proverbe dit ceci, « Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère ne me donne ni pauvreté ni richesse. Les extrémités, je veux les éviter. Pourquoi? Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Juste le logis, la bouffe pour vivre chaque jour. De peur. C'est quoi? Voici le danger. Dans l'abondance, je ne te renie. D'être tellement dans la richesse que j'ai plus besoin de toi, Dieu. Et ils disent, qui est l'Éternel? C'est moi qui ai gagné tout ça, là. C'est moi qui ai été intelligent à placer mon argent, à qui ai été bon gestionnaire. Mensonge. Attention au mensonge. Et de l'autre côté, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe, je commence à voler et que je m'attaque au nom de Dieu et que je maudisse Dieu de ma condition. Seigneur, évite-moi ces deux extrêmes-là. Quelle belle vérité de sagesse qu'on a dans les proverbes-là ici. C'est parce que les deux, un extrême, ont un danger dans ma relation avec Dieu. Deux extrêmes complètement. Et quel défi! Il y a une parole que j'aime bien. Vous connaissez bien la chanson Beautiful Day de U2. Hein, en 2000, Bono et U2 sont connus pour cette chanson-là, encore aujourd'hui. Hein, Beautiful Day. Mais il y a un refrain qui revient dans Beautiful Day, qui passe inaperçu, qui est en anglais, évidemment, puis que des fois, comme Québécois, on n'entend pas, mais il y a une vérité vraiment marquante qui m'a toujours saisi depuis le premier jour que j'ai écouté cette chanson-là. Dans un refrain, il va dire ceci: « What you don't know, you can feel it somehow. » Ce que tu ne sais pas, tu peux quand même à quelque part ressentir qu'il y a quelque chose. « What you don't have, you don't need it somehow. » Ce que tu n'as pas, à quelque part, tu n'en as pas vraiment de besoin. Et pour être sûr qu'on a bien compris, il va répéter, « You don't need it somehow. » Il répète une deuxième fois. « What you don't have, you don't need it somehow. » Ce que tu n'as pas besoin à quelque part si tu ne l'as pas. Et tu peux faire ça. Voilà le contentement. Voilà le contentement. J'avais une histoire ici que je voulais vous lire, puis là, je ne le trouve pas dans mes notes, mais ce n'est pas grave. Juste terminer avec le dernier point ici avant d'aller à la conclusion. Le désir de la richesse mène au péché. Et les versets 9 et 10 se concentrent sur le fait que quand tu t'éloignes comme ça, tranquillement, cet amour de l'argent t'amène dans une destruction de toi-même, relationnellement, spirituellement, et ça t'amène finalement à une perdition, littéralement. Et c'est ce qu'il décrit dans les versets 9 et 10. Le danger d'aimer l'argent, c'est de l'autodestruction. À l'époque où ce que Paul écrit, il y avait un auteur de ce qui s'appelle les sentences de Pseudo-Poclide. Un juif grec qui a écrit un peu avant l'époque de Jésus. Et voici ce qu'il dit au sujet de l'amour de l'argent. Okay? La même expression grecque utilisée qu'ici. L'amour de l'argent est la mère de tous les maux. L'or et l'argent sont toujours un attrait pour les hommes. Or, créateur du mal, destructeur de la vie, écrasant toute chose si tu n'étais pas une clameur désirable pour les mortels. C'est à cause de toi qu'il y a des batailles, c'est à cause de toi qu'il y a des pillages et des meurtres. Et que les enfants deviennent les ennemis de leurs parents et les frères les ennemis de leurs proches à cause de l'amour de l'argent. Regardez, malheureusement, après la mort de quelqu'un qui a de l'argent à donner comme héritage, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des relations qui sont brisées des fois, mais l'amour de l'argent sort là des fois. Combien de chicanes? Les situations que je dois écouter des gens qui sont blessés dans des familles chrétiennes et des familles pas chrétiennes, liées à l'héritage. Que c'est triste. Les perceptions, les relations brisées là-dedans, qui étaient déjà peut-être fragiles auparavant et qui se battent pour de l'argent. L'amour de l'argent est tellement dangereux et elle amène à une autodestruction. J'aimerais lire un court texte ici. L'avantage de l'adversité. Écoutez bien ceci. Un texte écrit par Haddon Robinson, grand prédicateur, surtout professeur de l'enseignement de l'homélitique pour les pasteurs dans le nord des États-Unis. L'adversité nous éprouve. C'est une chose que d'étudier une partie de baseball. C'est une autre chose d'en jouer une game et d'être sur le terrain concrètement. D'affronter l'adversité et d'essuyer des coups, comme dans tous les sports. Pour nous aussi, gens de foi, c'est dans l'adversité qu'on voit si nous allons nous dérober ou fuir ou si nous allons relever les défis dans la vie qui nous sont lancés. Nous pensons peut-être le contraire de l'adversité, que c'est la prospérité. Ce n'est pas le cas. La prospérité, en effet, est une épreuve de caractère déguisée. Et c'est ce que nous vivons en Amérique du Nord, la prospérité. Thomas Carlyle, essayiste écossais, dit ceci, comprenant bien cela, a écrit « L'adversité est parfois dure à supporter, mais pour chaque homme qui arrive à supporter la prospérité, il y a une centaine qui supporte l'adversité. » Il y en a très peu qui peuvent conserver leur équilibre moral, spirituel, financier, tout en marchant sur la corde raide élevée de la réussite. La plupart d'entre nous peuvent mieux assumer la rétrogradation d'une promotion. Pourquoi? Parce que quand l'adversité frappe, la vie devient plus simple. Nous n'avons pas d'autre choix que de s'y faire ou d'abandonner. La prospérité, elle, ne semble pas être une épreuve, mais elle crée souvent en nous un sentiment de mécontentement. Nous voulons toujours plus de ce que nous possédons déjà en abondance. L'esprit du collectionneur. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et cela, c'est beaucoup plus rare que la simple prospérité. La prospérité peut être une épreuve de caractère plus grande que la pauvreté. Une dernière phrase. Ce qu'on possède n'a pas autant d'importance que l'attitude qu'on a envers ses possessions. Et ce qui influence mon attitude dans mes possessions, c'est les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Vous comprenez? Ça revient là. Les saines paroles. Alors, ce matin, mon but, ce n'est pas de vous culpabiliser, de me culpabiliser. Ce n'est pas ça le but. Ça, c'est facile, se culpabiliser. Mais ce n'est pas constructif. Le but, c'est de sensibiliser nos cœurs, de s'évaluer. Et que s'il y a quelque chose que je trouve en moi qui est désaxé, Seigneur veut juste être là avec les bras grands ouverts, puis t'accueillir, pas te culpabiliser. Seigneur, j'ai un défi, là. Je vois bien que j'ai un manque de contentement. Là. Seigneur, je le vois, ça. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai besoin tellement de ton aide, de me remplir de des paroles saines qui vont m'aider à garder l'attitude que tu veux face à mon employeur, l'attitude que tu veux face au contentement. Est-ce que tu me donnes? Aide-moi à voir ce que je ne vois pas. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. On va terminer dans la louange. Que le Seigneur nous amène aux saines paroles de Jésus. C'est la solution. Il n'y en a pas de solution facile là, de juste vous mettre des affaires comme objectif, vous faire des belles paroles sur le mur. C'est correct, toutes ces stratégies-là humaines, mais ce n'est pas ça qui amène dans la profondeur de notre cœur le contentement. Alors, j'aimerais vous inviter dans la prière ensemble. Et on va parler à celui seul qui peut nous contenter. OK? Parlez-lui ce matin en même temps que moi. Et parlons-lui de ce qu'on vit face à ce défi de contentement. Ô Père Céleste, nous aussi, Seigneur, comme un enfant, on chiale, Seigneur, de toutes sortes de choses. Et on oublie combien notre Dieu nous donne tellement. Et comme Créateur, tu es tellement attentionné, Seigneur, tu as tout pourvu pour nous de ce qu'on a de besoin. Mais souvent, Seigneur, je sais, je suis aveuglé à ce que j'ai et je vois juste ce que je voudrais. Et quel piège pour moi, quel piège pour chacun de nous, Seigneur. Tout autour de nous est là pour essayer de combler notre cœur, nous dire qu'on va être comblé si on a ci, si on a ça, si on avait une nouvelle relation, si on avait une nouvelle promotion, si j'avais une nouvelle auto qui ne brise pas autant. Si j'avais une nouvelle relation amoureuse, ça serait mieux que celle-là que j'ai présentement. Tout autour de moi, Seigneur, veut nourrir des désirs de convoitise en dedans de moi qui me portent à m'égarer, qui me portent à la destruction. Et au début, c'est subtil, ça ne paraît pas, ça a de l'air beau même. Il y a peut-être même des versets accrochés à cette chose-là. Et pourtant, oh Seigneur, garde mon cœur près du tien. Garde mon cœur dans la reconnaissance. Garde mon cœur de voir mon Dieu plutôt que de voir mes apparences de besoin. Guéris-le, Seigneur, de ces désirs insatiables qui n'ont jamais de fond. À mon esprit de collectionneur. Oh Seigneur, libère-moi. Aide-moi à ne pas abandonner quand je suis découragé de moi-même, que j'ai encore chuté, à acheter quelque chose, à mal utiliser mon argent, à convoiter, à perdre ma joie, à juste revenir à toi dans tes bras comme un enfant revient à papa quand il est dans des problèmes. quand il cherche la main compatissante de maman pour l'écouter d'une chose qui s'est passée à l'école. Oh, qu'on soit ces petits-enfants qui reviennent auprès du Père céleste, qui nous accueille comme ça, grand ouvert, qui nous entend nous confesser nos luttes et comment on se sent, puis qu'on, par la grâce du Seigneur, je continue à me battre avec ton aide. J'abandonnerai pas parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que tu me donnes les ressources. Et même si des fois, je n'utilise pas les ressources, je veux revenir à la source. Jésus-Christ, à tes paroles, et reprendre les sources que tu me donnes pour continuer à me battre, contre mes désirs intérieurs et laisser ton toi gouverner en dedans de moi. Et ça passe par toi, Jésus. Ça passe, Père Céleste, par ton Fils. Ça passe par la plénitude de ton esprit. Merci d'avoir mis les ressources en nous, autour de nous, dans ta parole également, pour nous conduire. Accorde-nous, Seigneur, cette attitude avec mon patron. Accorde-nous cette attitude avec l'argent. Accorde-nous cette sagesse, cette attitude que tu veux qu'on ait avec celui qui s'égare dans les fausses doctrines. Et nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.